L'histoire économique, Sophie Fay, vous souhaitez donner un coup de projecteur sur le leader mondial du prêt-à-porter, l'enseigne Zara, le symbole de la fast fashion, la mode éphémère, avec des collections qui se renouvellent sans cesse et qui poussent le consommateur à acheter toujours plus. Et pourtant, la société ne se comporte pas si mal, c'est ce que nous apprend cette semaine une enquête de l'Obs, votre journal. Expliquez-nous.
Ben c'est intéressant en tout cas de regarder derrière les étiquettes. Le groupe auquel appartient Zara s'appelle Inditex. Il possède aussi Massimo Dutti, Pull&Bear et d'autres marques. Son fondateur, l'Espagnol Amancio Ortega, est la sixième fortune mondiale. Depuis 2000, c'est vrai, la consommation de vêtements dans le monde a doublé. Et Inditex y est pour beaucoup et il en profite à plein. C'est cela que les consommateurs responsables et les ONG lui reprochent. Et lorsque la journaliste de l'Obs, Sophie Fontanelle, qui suit la mode, montre une jupe Zara sur son compte Instagram, les critiques pleuvent.
Ce que ces internautes dénoncent, c'est la surconsommation et ses conséquences sur l'environnement. Ils n'ont pas tort.
Zara en a conscience. Mais tant que nous achèterons, le groupe n'arrêtera pas de vendre. Alors il essaye tout de même de changer certaines pratiques. Devant ses actionnaires, Zara a par exemple promis de n'utiliser que des matières textiles durables, coton, lin ou polyester biologique d'ici 2025. Il a signé le fameux pacte des entreprises de la mode pour le climat. Il ne détruit pas les invendus, notamment en France, mais les recycle ou les donne à des associations caritatives.
Mais en France, c'est normal, ça c'est une obligation de la loi qui vient d'être adoptée.
Mais oui, mais Zara l'avait un peu devancé. Et autre point intéressant, le groupe vient de recevoir un satisfecit du très puissant syndicat américain de la distribution, pour qui Zara fait la démonstration qu'on peut, je cite, lier syndicalisation, compétitivité, rentabilité et croissance. Il y a des sections syndicales dans toutes les boutiques ou presque aux États-Unis, ce qui n'est pas très courant là-bas. En France, côté social, le groupe a recruté et accompagné 400 personnes en grande précarité, des jeunes, parfois venus de la rue ou des réfugiés avec l'asile politique. Ce programme est très apprécié par les salariés, mais ils aimeraient toutefois qu'un effort soit aussi fait pour diminuer l'emploi à temps partiel, parfois forcé dans leur rang. Alors, ces pratiques sont-elles suffisamment vertueuses? Eh bien, évidemment, pour les ONG, pas du tout. Il y a encore beaucoup à faire et surtout, il faudrait changer de modèle, renoncer à cette mode rapide. Et nous, consommateurs, qu'en pensons-nous? Parce que finalement, au fond, les vrais arbitres, c'est nous.
Et on en saura plus en lisant l'Obs, l'enquête qui est dans l'Obs qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre dans ce numéro? Il y a quoi, la une?
Eh bien, il y a des héros du quotidien, des représentants de la France solidaire, qui se battent pour les autres, pour les jeunes, pour les réfugiés, pour les quartiers, ceux qui pratiquent au quotidien l'optimisme de combat qui est cher à notre directrice.
Il y a aussi
un portrait de Juan Branco, l'auteur d'un pamphlet anti-Macron à très très grand tirage, mais il est peut-être loin d'être aussi révolutionnaire que ce qu'il prétend.
Sophie Fay, journaliste à l'Obs et aux commandes de l'Histoire économique sur France Inter.